Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Sébastien Martinez avec qui nous allons parler mémoire. Sébastien est champion de France de mémoire 2015 et vice-champion du monde aux côtés de l'équipe de France en 2018. Ingénieur de formation, il a très vite créé sa propre méthode pour apprendre, basée sur les stratégies mémotechniques les plus connues. Bonjour Sébastien.
Bonjour Rémi.
Sébastien, avant tout, explique-nous comment on devient champion de France de mémoire.
Déjà, il faut savoir qu'il y a des compétitions qui existent. Et moi, avant tout, au début, je détestais apprendre par cœur. Donc le monde de ces athlètes de la mémoire était assez éloigné de moi. Et ça vient d'un problème, en fait. Moi, je voulais valider un TOEIC à l'époque quand j'étais élève ingénieur, donc examen d'anglais. Et comme j'étais mauvais à l'époque, 7 sur 20, j'ai dû apprendre du vocabulaire. Donc je me suis dit, comment apprendre du vocabulaire? Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des techniques, des championnats du monde de mémorisation. C'est là où j'ai découvert ces méthodes, je les ai pratiquées assez intensément. Et ça m'a permis, du coup, de valider ce TOEIC. Mais surtout, en fait, j'ai découvert ce monde d'athlète. Et après, il y a des événements qui m'ont fait me rapprocher de ces compétitions. Et donc, j'ai participé à des compétitions. Et j'ai réussi à en gagner une, du coup.
Ça se passe comment, une compétition de mémoire? Alors, c'est sur quoi qu'on évalue les gens?
Le format, il est sur 10 épreuves. C'est un peu comme un décathlon. On a 10 épreuves où on est face à sa copie, enfin, même si c'est un ordinateur, mais tout seul, on mémorise. Ça peut être des visages, des listes de trombinoscopes avec des prénoms et des noms, des listes de chiffres, des listes de mots, des jeux de cartes, 52. Et après, le temps de mémorisation, il y a toujours un temps de restitution qui nous fait un score après et un classement.
Et qu'est-ce qui fait la différence entre deux athlètes, selon toi?
Clairement, l'entraînement. La grosse différence, c'est il y en a, ils s'entraînent 2, 3, 4, 5 heures par jour, et d'autres, beaucoup moins.
Si je comprends bien, tout le monde a les mêmes techniques. En fait, vous maîtrisez tous la même base de techniques. Après, c'est le niveau d'entraînement qui fait la différence.
Oui, alors les principes sont les mêmes, j'ai envie de dire. Après, il y a plusieurs techniques qui sont associées à ces principes. On pourra aller voir c'est quoi les principes de mémorisation. Et après, il y a une coloration en fonction de chaque personne, va les implémenter un peu différemment. Mais les principes sont les mêmes. Donc les principes, en fait, pour mémoriser, il y a trois clés, en fait. Première clé, c'est t'as besoin d'être attentif. Deuxième clé, t'as besoin d'associer. Et troisième clé, t'as besoin de t'entraîner, de consolider. Dans le monde des athlètes, donc alors l'entraînement sur l'attention, bon, on peut voir oui, il y a plein de choses qui existent, mais moi surtout le cœur des athlètes de la mémoire, c'est surtout la notion d'association. C'est comment tu fais pour associer des informations concrètement. On peut prendre des exemples. Hein, prenons les chiffres, une épreuve assez phare des compétitions. Pour mémoriser des chiffres, le problème des chiffres, c'est que c'est assez conceptuel. Comment tu fais pour les transformer? Si par exemple je te dis le 75, tu penses à quoi comme association?
Paris.
Paris. Si je te donne 51, tu penses à quoi?
Le pastis, tiens.
Le pastis, très bien. Si je te donne, 69.
Ah ben Lyon, on est lyonnais.
Ben oui, Lyon. Je sais que t'es sur Lyon. On peut penser à autre chose aussi. Je laisserai chacun imaginer. Mais en fait, vous voyez, ces chiffres, en fait, ils vont prendre une date de naissance ou n'importe. Si ces chiffres, ils se retrouvent dans des codes secrets, dans des dates, on va beaucoup plus facilement s'en souvenir. Et tout la clé en compétition, qu'on mémorise des chiffres, c'est d'être capable de faire des histoires comme ça avec ces chiffres, mais des chiffres qu'on rend concrets.
Alors, tiens, si on continue l'exemple des chiffres, le cerveau et ma mémoire, on va dire la mémoire vive, je ne sais pas si c'est ça le terme technique, mais il est capable de retenir combien de chiffres? Par exemple, sur un numéro de téléphone, moi j'arrive à peu près les trois premiers faciles et les deux derniers, je me galère. Est-ce que c'est moi qui suis mal câblé ou...
Non, il faut vraiment séparer. Souvent, dans les modèles de mémoire, il y a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Dans la mémoire à court terme, on parle de deux limites qui sont clés, c'est la durée, ça dure à peu près 18 secondes, et la quantité d'information, c'est 7 plus ou moins 2, donc entre 5 et 9. Et donc là, à court terme, c'est très limité. Donc quand on prend un numéro de téléphone, ben, au final, il y a 5 paires. Bon, la première paire, souvent, on la retient pas, mais on va réussir à en avoir 2, 3, 4 facilement à court terme, peut-être 5. Mais au-delà, après, on va l'oublier rapidement, le numéro. Si tu veux retenir à long terme, tu as besoin de faire tes associations, en fait. Et il y en a plein, hein, avec des dirigeants que je rencontre, qui me disent, moi, les chiffres, c'est facile, je les associe à des départements. Et c'est comme ça que je retiens des numéros, des codes ou des chiffres de bilan.
Encore faut-il connaître tous ces départements.
Et c'est ça. Et donc, si tu connais pas tous tes départements, c'est là où tu as besoin d'avoir, on va dire, de construire un système qui va te permettre de les associer plus spontanément.
Est-ce que tu as, toi, étudié le fonctionnement du cerveau pour comprendre tout ça?
C'est pas nécessaire. En fait, j'ai commencé... Moi, la théorie, c'est quelque chose qui me... Enfin, j'ai fait une école d'ingénieur, il y a beaucoup de théories. C'est un truc qui m'a fatigué à un moment donné. J'ai une sorte d'overdose de théorie. Et j'avais vraiment envie de voir, mais concrètement, comment on fait pour, ben, pour apprendre des informations. Moi, je me définis aussi beaucoup moi, comme un entrepreneur. Je suis devenu l'expert de mon propre problème. Mon problème, c'était être capable de mémoriser par cœur du vocabulaire en anglais pour le TOEIC. Et c'est comme ça que j'ai cherché des solutions et j'ai trouvé ces techniques de mémorisation.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément une technique pour apprendre du vocabulaire en...
Oui. Alors, pour du vocabulaire, souvent, le problème, si on reprend nos trois clés, c'est être attentif, associé et consolidé, répéter. L'attention, c'est lié aussi à la motivation. Si vous avez un intérêt à apprendre une langue, ben, c'est plus facile. Moi, à l'époque, c'était le TOEIC. Je voulais partir à l'étranger, donc j'avais une vraie motivation, donc beaucoup d'attention. Le problème, il était surtout dans ma capacité à associer. Si on prend, prenons des mots que personne connaît, enfin une autre langue, par exemple, j'aime bien l'hindi. L'hindi, c'est comme j'ai fait une année de mes études en Inde, c'est une langue en Inde. Le mot hindi, par exemple, baya. Je sais pas si tu connais la traduction de baya.
Pas du tout.
Pas du tout. Alors c'est un frère en hindi. Donc déjà, le mot baya, ça t'inspire quoi phonétiquement là, la sonorité? À quoi tu penses?
Un bâillement.
Un bâillement, parfait. Quelqu'un qui baille. Maintenant, est-ce que t'as un frère?
J'en ai deux.
T'en as deux, parfait. Donc t'en prends un des deux.
Ouais.
Et après, tu vas fusionner ces deux images. T'as le bâillement et un de tes frères. Tu peux imaginer qu'il est en train de bâiller, tout simplement.
Ça y est, j'y suis. Là.
Et le fait d'imaginer comme ça, de sensorialiser dans son esprit cette image, ben, tu vas, d'une certaine manière, encoder, donc mémoriser, on peut dire, à moyen terme. Et si tu veux le garder durablement, ben, derrière, tu as besoin de le revoir, d'utiliser ce mot, en fait, dans des contextes, pour t'en souvenir durablement. Ça, c'est un principe, c'est une technique d'association. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux manières d'associer. Soit on associe de manière très rationnelle, bah, par exemple un frère, bah, t'as un frère donc c'est facile. Soit tu peux associer de manière très loufoque, plutôt irrationnelle. Et typiquement c'est ce qu'on fait avec baya. Baya, bah, on n'a pas l'étymologie de l'hindi, donc on est obligé de faire des associations plus loufoques. Et on pourrait prendre plein d'autres exemples. Des fois je prends un exemple d'apprendre du turc, que j'ai fait une expertise en Turquie une fois et du coup je me suis amusé à m'amuser du turc avant de partir. Et le mot, je sais pas, du vin en turc, je sais pas si tu sais comment on dit.
Pas du tout.
Alors, du vin en turc, c'est şarap. Alors du coup, du vin, je me dis, t'as déjà vu une bouteille de vin ou je sais pas quel type de vin tu choisis. Rouge, rosé, blanc.
On va prendre un rouge.
Allez, un rouge. Et şarap, à quoi tu penses quand tu penses à şarap?
Ben moi, ça m'évoque pas grand-chose. Alors tiens, je manque d'imagination. Comment on fait pour développer son imagination dans cette...
Quand on manque d'imagination, tu peux soit le faire avec d'autres personnes. Souvent, ce qui se passe, c'est quand tu fais ça avec un enfant de 8 ans, il a jamais de blocage en termes d'imagination. Donc, soit avec d'autres personnes, soit avec des enfants, soit juste laisser. Et des fois, le lendemain, il y a des choses qui viennent. Alors, moi, şarap, soit je pense à un chat qui fait du rap, şarap, soit juste ça rappe la langue. Et du coup, avec le vin, c'est assez bien. Tu imagines un vin qui rappe un peu, tu le bois et ça rappe la langue. Et donc voilà, on va dire le cœur, on va dire des principes d'association. Souvent la grande inconnue, c'est qu'on fait des associations rationnelles, mais on oublie de faire des associations loufoques et elles marchent très bien.
Alors intuitivement là, tu es en train de m'expliquer que il faut que je me raconte une petite histoire la plus loufoque possible
dans mon
pour
cerveau,
retenir un seul mot. Il y avait besoin de faire entrer un seul mot, je lui fais rentrer une histoire qui plus est loufoque. J'occupe plus d'espace disque là.
Alors, c'est si tu raisonnes en mode, on va dire, disque dur, physique, oui, t'as l'impression qu'il y a plus d'informations. Ce qu'il faut voir, c'est que notre cerveau, lui, il raisonne comment? L'interface entre l'extérieur et notre cerveau, ce sont nos cinq sens. Et on sait, en fait, aujourd'hui, que quand on a une information visuelle qui nous arrive, on a une aire cérébrale du cerveau qui est activée. Quand c'est auditif, c'est notre aire. En fait, chaque sens est connecté à une aire cérébrale très différente. Et du coup, le but de notre cerveau, c'est pas tellement de surcharger, mais c'est plus de créer un maximum de connexions. Donc, utiliser ces cinq sens, ça va plus t'aider. C'est assez contre-intuitif au début, mais ça va plus t'aider à t'en souvenir que de faire qu'une seule. Quelque chose d'assez simple, bah, tu vas l'oublier plus rapidement. Je sais pas si je suis clair.
Ouais, c'est très clair. Mais la théorie est très claire. La pratique me paraît encore un peu obscure. Tu vas peut-être pouvoir me guider un peu plus. Si j'ai 100 mots devant moi d'une langue que je connais pas.
Oui.
Et tu me dis, il faut que tu t'inventes une petite histoire pour chacune qui va mobiliser tes cinq sens, donc cette petite histoire que tu l'imagines et puis qu'ensuite
oui.
Tu te la répètes pour qu'elle t'imprègne bien. Combien de temps ça va me prendre? À quel moment je vais être capable intuitivement, effectivement, ça me paraît plus de travail encore que,
oui.
Que des méthodes plus classiques qui marchent pas très bien. Hein,
Mais oui, en fait, déjà, ce qu'il faut voir par rapport à ta méthode classique, c'est déjà, pour la plupart, les gens quand ils font ça, tu prends du plaisir, tu vois, à faire ça. Tu t'amuses. Donc ça, c'est déjà un point important. Je fais des formations, par exemple, spécifiques où on s'amuse à mémoriser un maximum de vocabulaire en anglais en un mois, le plus rapidement possible. Enfin, le plus possible. Et tu vois, en un mois, j'ai des participants qui mémorisent plus de 700 nouveaux mots. Ta question, elle me revient souvent. On me dit, mais ça va me prendre du temps, 100 mots. Alors, au début, je vais pas t'inviter à faire 100 mots dans la journée. Au début, peut-être que tu vas en faire que 5 dans la journée, ou que 10. Et petit à petit, tu vas augmenter le nombre de mots, parce que tu vas augmenter à la fois ton entraînement, du coup, t'as ton aisance à faire des associations, et ton endurance mentale, parce que ça prend un peu d'attention, donc d'énergie de faire ça. Pour donner des chiffres, au début, des gens qui sont pas entraînés, en général, ils mettent 1 minute par mot. Avec de l'entraînement, tu peux facilement tomber à 15 secondes par mot, en termes d'association. Donc ça te fait 4 mots toutes les minutes.
Que je comprenne, Sébastien, quand tu dis mémoriser, ça veut dire, dans ton exemple, je peux mémoriser jusqu'à 700 mots en un mois de travail. Est-ce que c'est ensuite ces 700 mots, si tu me présentes le mot anglais, je te donne la traduction en français, ou est-ce que ça veut dire je suis capable à la file de t'écrire 700 mots que j'ai retenus sans aucun autre indice?
Ah non, là, on pourrait, ça c'est d'autres stratégies. Là, le but quand on apprend du vocabulaire, c'est pas d'être capable de réciter des listes. C'est plus d'être capable, quand tu lis un mot en anglais dans un texte, d'être capable de dire « Ah oui, ça veut dire ça. » Ou quand tu es en train de parler, bah, tu reconnais les mots qui sont en train d'utiliser ou tu trouves les mots qu'il te faut. Si tu veux mémoriser une liste, c'est une autre méthodologie, et c'est possible aussi, mais c'est juste, ça n'a pas trop de pertinence quand tu apprends une langue en général.
Non, par contre, mémoriser des listes, tu pourrais nous donner un petit tuyau là pour parce que c'est quand même intéressant.
Oui. Alors, des listes, ça peut être... mémoriser quoi? Des exemples qu'on me donne, ça peut être retenir une to-do list quand t'as un truc, quelque chose à faire. J'ai des dirigeants, des fois, ils me disent, mais moi, j'ai toujours une bonne idée, mais jamais au bon moment. Tu vois, comment faire pour la noter mentalement?
Ou alors, quelque chose. J'ai vu que t'avais, alors j'ai regardé la vidéo TED que tu as faite. On sait que dans le format, il faut connaître par cœur son cheminement, son déroulé. Et donc, j'imagine le fil conducteur de tes idées. Donc, si j'ai une présentation de 15 minutes à faire et je veux apprendre le fil conducteur par cœur, comment tu fais, toi?
Alors, une de méthodes, déjà, première étape, c'est de lister les idées que tu vas développer. Donc là, c'est pas une technique de mémorisation, c'est clairement structurer ton discours. Une fois que tu as listé tout ça, donc tu as tes sortes de bullet points, là, tu as tes différents points, et ces différents points, là, tu vas utiliser une technique de mémorisation. Moi, la technique pour les listes que j'utilise, c'est une technique qui a 2500 ans, hein, qui s'appelle la méthode du palais mental. Elle a été inventée donc par des Grecs pendant l'Antiquité. Et le principe, c'est qu'on utilise une pièce que l'on connaît souvent, et on va associer dans chaque élément de la pièce une information. Prenons par exemple une cuisine classique. Par exemple, quand tu arrives, par exemple, peut-être chez quelqu'un, tu arrives, il y a la porte d'entrée. Donc tu prends le premier élément, tu prends la porte d'entrée. Après, en arrivant, peut-être, je sais pas si on arrive dans la cuisine dessus, mais imaginons, il y a le frigo. À côté, il y a peut-être des plaques de cuisson. Il y a un évier. Il peut y avoir une corbeille à fruits. Il peut y avoir une table. Enfin, tu listes en fait un ensemble d'éléments dans une pièce que tu connais par cœur, et tu vas associer dans chaque élément de cette pièce l'idée que tu dois retenir. Je sais pas, quelle liste que t'as envie de retenir là? T'aurais 2-3 exemples d'éléments, comme ça qu'on fait l'exercice ensemble?
2-3 exemples d'éléments, non, là tu me prends un froid, complètement.
Je te prends un froid? C'est pour rebondir à ta question, parce que tu me parlais d'un discours, d'une présentation.
Eh ben, ça aurait pu être, par exemple, dans notre cas, on avait besoin d'introduire qui est Sébastien. Ensuite, on voulait parler des championnats de France de mémoire. Ensuite, on voulait parler du fonctionnement du cerveau, puis des techniques de mémorisation assez appliquées. Ensuite, on va ouvrir sur comment je peux l'appliquer pour un chef d'entreprise. Et enfin, terminer sur une question d'ouverture.
Parfait.
Je te l'ai fait un peu vite, mince.
Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Donc, l'introduction. Alors, l'introduction, c'est pas forcément indispensable de le mettre dans ta liste, parce que ça commence toujours par l'introduction. Mais soit, mettons introduction. Introduction. Moi, la première chose que ça m'évoque, c'est, je sais pas, je vois un micro, quelqu'un qui introduit quelqu'un, tu vois, qui arrive. Tu vois l'image?
Ouais.
Avec un micro, tu parles de quelqu'un, tu l'introduis.
Ouais.
Ok, donc là, j'imagine, dans la porte d'entrée, j'ai un micro avec quelqu'un, donc j'ouvre la porte et quelqu'un avec un micro qui introduit. Après, tu me parles des championnats. Championnats de mémoire, soit c'est quoi l'image qui te vient quand tu penses à des championnats de mémoire?
Une foule en liesse.
Une foule, par exemple, une foule. Et là, on va le mettre dans le frigo. Imagine dans le frigo, tu ouvres ton frigo et là, il y a une foule de personnes.
Ok.
Après, un peu de théorie sur le cerveau, tu m'as dit. Donc, cerveau, T'imagines quoi?
Ah bah là, on a un cerveau qui... voilà, un joli cerveau.
Un cerveau, anatomiquement, voilà, avec le... un peu la matière grise, quoi. Donc, un cerveau, on va le mettre sur l'élément d'après dans ton palais, à côté du frigo, je sais pas si chez toi, Yossi, il y a une plaque de cuisson.
Ouais, un four micro-ondes.
Un four micro-ondes, très bien. Donc, dans le four micro-ondes, tu l'ouvres, et là, il y a un cerveau qui est en train de se reposer. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Après, tu m'as parlé des techniques de mémorisation à appliquer.
Ouais.
Donc, techniques de mémorisation, on peut avoir quoi comme image qui nous vient?
Les techniques, on pourrait avoir une boîte à outils, tiens.
Voilà, exactement ça aussi. Donc j'imagine une boîte à outils, juste à côté du micro-ondes, toi t'as quoi?
On pourrait les mettre avec les couverts, hein, notre boîte à outils.
Les couverts, donc dans les couverts, imagine tout, là, il y a plein d'outils. Donc t'as ta boîte à outils de mémorisation. Après, les chefs d'entreprise. Chef d'entreprise, je pense que tu peux imaginer un chef d'entreprise.
Ouais.
T'en as dans ton entourage.
On en connaît 2-3.
2-3, très bien. Donc là, tu mets après, peut-être, est-ce qu'il y a l'évier pas loin? On le met dans l'évier, on le met dans l'évier. Il prend la douche dans l'évier, notre chef d'entreprise. Et enfin, ouverture. Ouverture, je sais pas, moi je pense à quelqu'un qui ouvre, je sais pas, un cahier, par exemple, qui s'ouvre.
Okay.
Et là, on le met juste à côté. Il y a peut-être un plan de travail juste à côté de ton évier.
Oui, il y en a.
Allez, imagine un livre que tu ouvres. Et maintenant qu'on a fait toutes ces associations, l'étape d'après qui est indispensable, c'est juste, tu peux fermer les yeux et essayer de retrouver l'enchaînement de ton palais. Donc le premier, on avait la porte d'entrée. Je ne sais pas si tu te souviens de l'image qu'on avait mise. Donc l'introduction. Le deuxième arrêt dans notre palais, c'était...
On avait un frigo.
Un frigo. Avec quoi à l'intérieur? Avec une...
Dans le frigo, on y avait mis... qu'est-ce qu'on...
Il y avait des gens. Il y avait des gens.
C'était la foule.
C'est ça. Et donc, et là, c'est intéressant de bien... Quand tu ne l'as pas bien comme il faut, tu peux prendre le temps de juste raffiner ton image. Donc tu as ta foule, donc c'est les championnats de mémoire. Après, l'élément d'après, toi, c'était le four micro-ondes.
Avec le cerveau dedans.
Donc, les cerveaux, donc théorie sur le cerveau. Après, on était au niveau des couverts.
Avec la boîte à outils.
C'est ça, technique de mémorisation. Dans l'évier.
Notre chef d'entreprise qui prend sa douche.
C'est ça. Et enfin, le dernier.
Le livre, Mémoire d'un roi.
Le livre, donc l'ouverture. Donc là, on vient de vivre ensemble une expérience de mémorisation avec ce qu'on appelle la méthode du palais mental.
Et est-ce que là, la notion des sens aussi, tu la ramènes? C'est-à-dire que tu essayes de le... Tu disais tout à l'heure qu'il fallait mobiliser 5 sens. Donc à chaque fois, j'ouvre mon frigo, j'ai froid.
En fait, plus tu vas sensorialiser, et plus ça va activer en fait des aires cérébrales différentes de ton cerveau. Et donc, derrière, en fait, plus tu auras de chances de t'en souvenir.
Il y a une limite au nombre d'éléments là que je peux retenir avec une méthode comme ça?
Non, la limite, elle est plus dans ton endurance, en fait. Donc au début, ça va être... Peut-être au début, si t'en fais une vingtaine, déjà, c'est bien. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'en compétition, il y a des épreuves où, je sais pas, pendant une heure, il faut mémoriser un maximum de chiffres. Et le record du monde, il est autour de 3600 chiffres en une heure. Ça fait, comme les gens associent, on va dire, par deux... Ça fait plus de 1500 images, tu vois, qu'ils font en une heure, quoi.
Là, ça devient complètement incroyable. Toi, c'est quoi le...
C'est du sport du haut niveau, quoi.
Toi, c'est quoi la chose la plus inutile, mais difficile, réussie à mémoriser?
Inutile et difficile. Alors, si c'est difficile, ça suppose qu'il a fallu que je mette de l'énergie, que j'en ai envie. On va dire inutile, moi, pendant les compétitions, une des épreuves qui m'énerve, en fait, c'est l'épreuve sur les binaires. C'est, tu mémorises un maximum de chiffres binaires, donc des listes de 0 et de 1. Et il y a une des épreuves, c'est 30 minutes de mémorisation. Donc c'est quand même long. Et donc c'est une épreuve qui m'énerve.
T'as été capable d'en retenir combien, des 0 et des 1, des suites?
Là, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit être... en fait, ça va assez vite, c'est assez impressionnant, assez rapidement. J'en ai plus de 500, je pense. Là, franchement, comme c'est une preuve que j'aime pas, je la fais quasiment pas. Sauf quand j'ai pas le choix. Les compètes. Et là, cette année, on n'a pas eu trop de compètes avec l'aspect confinement.
Justement, pour passer de l'inutile au très utile, toi, tu t'intéresses beaucoup à la transmission. Hein, la formation, la transmission sous toutes ses formes, ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'important pour toi. Pour quelles raisons ça te semble important de transmettre et d'apprendre aux gens à utiliser ces outils-là?
Moi, ce que je trouve dingue, en fait, quand tu connais ce genre de méthodologie, c'est que ça t'ouvre un potentiel, enfin, ça t'ouvre le champ des possibles. Tu peux, j'ai des élèves, par exemple, qui viennent au lycée, qui s'autorisent pas à faire certaines études parce que ça demande beaucoup trop de capacité à mémoriser, par exemple, des choses comme médecine, ils disent, non, je vais faire autre chose. Et quand ils sortent de là, ils disent, en fait, j'ai ce potentiel et je peux y aller. Et donc, ça ouvre vraiment des rêves. Et moi, j'adore, en fait, voir cette transformation chez les personnes. me définis souvent comme un transformateur, un peu, j'aime bien, voilà, accompagner les gens à révéler vraiment leur potentiel d'un point de vue mnésique. Donc, c'est ça que j'adore. Donc, j'adore travailler beaucoup avec des personnes qui ont besoin d'apprendre. Je pense beaucoup à des jeunes qui sont en concours de médecine. Je travaille avec des écoles d'ostéopathes. Je travaille aussi avec l'école du Louvre sur Paris. C'est assez marrant de voir tout ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Donc, avec les PM aussi, parce que quand même, il y en a beaucoup qui se considèrent comme dans un processus d'apprentissage. Hein. C'est un peu une école pour des dirigeants. Donc, voilà ce qui m'anime.
Ouais, c'est assez incroyable. Est-ce que c'est plutôt passé du niveau 0 de l'apprentissage au niveau 1, ton truc, ou est-ce que tu arrives, ou tu as parfois des cas de gens qui sont déjà à un niveau assez élevé de leur apprentissage, je sais pas, je pense à des musiciens par exemple, ou à des ou tu l'as dit, des gens qui sont déjà très loin dans le processus d'études et d'autres éducations, et toi tu les aides à passer le step d'après, ou vraiment devenir un super expert, pas un athlète de la mémoire, mais enfin déjà...
En général, de toute façon, même les gens qui ont une excellente mémoire, je pense par exemple, on travaille avec des écoles de médecine, et des jeunes qui sont 4, 5, 6e année, donc ils ont passé les concours, ils ont besoin d'apprendre beaucoup d'informations, ils ont déjà quand même un très bon niveau, et ce que l'on observe, c'est que ils en sont pas conscients en fait des méthodes qu'ils utilisent, et souvent ils font des erreurs mais énormes, et des choses qui les freinent en fait dans leur apprentissage. Donc en fait souvent, même les gens qui sont entre guillemets performants, ils ont pas cet éclairage en fait sur leur cerveau, sur leur capacité à mémoriser, sur leur méthodologie. Donc en fait ça marche pour tous. Moi, j'adore travailler surtout avec des gens qui ont des vrais besoins et qui en ont vraiment envie. Et là, et surtout parce que du coup, ils me challengent, ils me lâchent pas en fait en termes de questions. Et moi, ça m'oblige à être encore meilleur.
T'as parlé plusieurs fois, et là, tu viens d'en reparler, de la motivation qui est vraiment le béaba. Est-ce que t'apprends à jouer là-dessus? Est-ce que t'apprends à juste prendre conscience du niveau de motivation qu'on va avoir pour un sujet et d'intégrer ça dans son processus de mémorisation?
En fait, la motivation, pour moi, elle joue beaucoup dans la première clé. Je te partageais, c'est l'attention. Parce que la clé numéro une pour pouvoir mémoriser, c'est d'être attentif. Donc après, moi, je joue pas trop sur la motivation. Dans le sens, après, il y en a qui sont experts là-dessus. On va dire, il y a du coaching, tout ça. Comment capter, c'est quoi tes vraies motivations internes d'aller sur certains sujets. Moi, où j'accompagne les gens, c'est sur la notion attentionnelle. Par exemple, des erreurs classiques que font les gens, c'est qu'ils restent concentrés, ils font des séances de travail qui durent plus d'une heure. Et on sait aujourd'hui qu'en termes d'attention, en fait, il y a des décrochages qui arrivent. Il vaut mieux faire des séances de travail qui durent 25 minutes et faire une micro-pause de 2-5 minutes et réenchaîner comme ça des phases attentionnelles courtes que trop longues. Ça marche pour des étudiants, mais aussi pour des cadres hein, qui travaillent sur des dossiers ou dans des réunions. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace.
Tu as écrit énormément de bouquins là-dessus. Enfin, je dis énormément. Pour un sujet aussi pointu, il y a déjà plusieurs ouvrages. Et puis, il y en a un qui attire mon attention, c'était La mémoire d'un roi.
Oui, c'est la BD, ça, c'est le dernier.
Est-ce que le fait que ce soit en BD, ça t'aide à passer ton message différemment?
Oui. En fait, moi, dès le premier livre, La mémoire infaillible, j'en parlais à mon éditrice, j'ai en fait... Moi, ce que je vois avec les élèves, les stagiaires que j'ai, c'est qu'ils ont du mal des fois à développer leur imaginaire. Tu sais, le fait d'associer, ce que tu me disais tout à l'heure. Hein,
Oui, c'est pas évident.
Et je dis, mais par contre, quand je leur donne des exemples, ils y arrivent. Je dis, il faudrait qu'on pousse le livre plus loin et qu'on le transforme carrément en BD. Et du coup, je crois 3-4 ans après, c'est ce qu'on a fait. Donc, je sais pas écrire des BD, donc je l'ai écrit avec Mathieu Burnia. Il y a un jeune belge qui est génial. Donc ce livre, en fait, il permet en fait aux personnes de pouvoir avoir des associations, de s'imprégner plus facilement des méthodes avec moins d'efforts en fait cognitifs. Oui. Et ça marche dès 8 ans. Hein. J'ai des parents qui me disent, mais mon fils, il a 8 ans, à 7 ans, il a lu. Alors, il n'a pas tout retenu, mais il y a des choses qu'il a captées.
J'ai l'impression que tu as fait la moitié des médias dispo là, quand on regarde sur ton site internet, il y a des liens vers tout, avec en plus des grosses différences. Ça va à la fois des nouveaux médias bruts sur les réseaux sociaux à des trucs plus classiques comme France Inter. Comment ça se fait qu'il y ait un tel engouement pour le sujet ou pour toi?
Alors déjà, il y a deux raisons. Première raison, c'est que donc à l'époque où ça s'est fait, j'ai eu une excellente attachée de presse. Déjà, c'est le premier point qui m'a... qui m'a ouvert plein de portes. Et après, c'est clair qu'il y a un engouement, hein, de le thème de la mémoire. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons, hein, les maladies d'Alzheimer, les gens ça intrigue en termes de performance. Et après aussi parce que bah, je pense que je passe bien aussi au niveau avec les médias. Je suis assez spontané et donc les journalistes aiment bien ça.
Effectivement, t'as l'air d'être un bon candidat. En tout cas, on l'a bien vu là. Merci. Elle est une idée reçue que t'aimerais ou que tu as le plus souvent déconstruit en matière de mémoire.
Alors, une idée que j'ai le plus déconstruite.
Une idée reçue.
Ouais, c'est.
Il y en a plein d'idées reçues sur la mémoire.
La plus, c'est que j'ai une mauvaise mémoire. Oui, les gens me disent j'ai une mémoire, mauvaise mémoire ou une mémoire sélective. Alors ça, c'est vrai. En fait, on a tous des mémoires sélectives. Ça, c'est pas un sujet. Mais c'est, je prends mon père par exemple. Ça, je trouve ça assez dingue. Il me dit par exemple souvent il a été cadre, directeur dans une entreprise et dans le bâtiment. Et ce qu'il disait, c'est qu'il est incapable d'apprendre de nouvelles langues. Mais en fait. Non, c'est juste que depuis tout petit, on lui a mis cette croyance, il a jamais eu de méthode, et apprendre des langues, on est tous capables d'apprendre 10 langues si on en a envie. C'est juste une question d'un peu de méthode et surtout de pratique. Donc on est tous des génies de la mémoire. Voilà, encore faut-il connaître les méthodes et s'entraîner. Ça, c'est un peu ma baseline tout le temps. Et j'en suis intimement convaincu.
T'as appris combien de langues, toi? Parce que parfois, je sais pas si tu fais ce jeu, mais quand on parle d'imagination, moi je me pose la question mes enfants, tiens, si on devait t'injecter un super pouvoir et tout, moi j'aimerais bien pouvoir m'injecter de savoir toutes les langues comme ça d'un jour.
Yes.
Et toi, t'en as appris combien avec ton super pouvoir de pouvoir mémoriser tout là?
Alors, comme je dis, il y a deux clés, hein, connaître les méthodes et s'entraîner. Alors, moi, sur les langues, j'ai pas un besoin énorme de m'entraîner dessus. Donc moi, pendant ma scolarité, j'en ai eu besoin, donc j'en ai appris deux, l'espagnol et l'anglais, par rapport au voyage, mais j'ai pas eu besoin d'en apprendre d'autres. Par contre, ça devient un peu un pouvoir, c'est quand je me suis amusé surtout avec la PM, j'ai un peu bougé à l'étranger. Tu vois, quand je partais en Turquie, c'était sur 4 jours, hein, donc je me suis dit quelques jours avant, je me suis mis à apprendre un peu de vocabulaire. J'en ai appris une centaine de mots pour rigoler quoi sur place, tu vois, avec le taxi, tout simple. Et après, comme j'ai pas du tout pratiqué, je les ai oubliés. Mais pour moi, il est là aussi ce pouvoir, c'est que ça te permet de t'immerger plus facilement dans des endroits où je vais, quoi.
Ah ouais, non, ça, c'est pas mal. Et tu nous dis que tout le monde est capable, donc il faut qu'on fasse cet effort-là.
Mais oui.
Sébastien, grand merci pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, créer de la richesse et contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quel conseil tu donnerais à ces entrepreneurs qui aimeraient retenir tout le contenu des journées qu'ils passent avec les experts de l'APM?
Ah, alors avec les experts de l'APM, souvent, un des gros problèmes, c'est la partie consommation, mais un peu comme dans les voyages. J'ai des personnes qui me disent, mais moi je pars en vacances, allez, je vais prendre un cliché avec ma femme et je me souviens pas de mes vacances. Et je lui demande, mais comment ça se passe quand tu organises ces vacances? Mais, c'est facile, elle organise un peu tout. Moi j'ai juste à monter dans le train, dans l'avion et on part. Je vis le voyage et après je rentre à la maison et après bon, j'enchaîne, j'ai le quotidien qui reprend. Et je lui dis, et ta femme, elle, quand elle organise un voyage, qu'est-ce qui se passe? Mais elle prend plusieurs semaines à l'avance où elle planifie, tu vois, donc elle commence à créer, on va dire, des connexions par rapport au voyage, elle anticipe. Pendant le voyage, ben, elle est présente, donc là, les deux, ils sont un peu, on va dire, au même niveau. Et après, ben, elle en parle avec des amis, avec ses enfants, tout ça. Et donc, le fait de pratiquer, en fait, ces informations et pas être juste un consommateur, d'être actif dans les connaissances qu'on récupère et qu'on transmet, ça a un impact énorme. Donc concrètement, pour en fin d'expertise, que j'invite moi à chaque fois les membres, c'est leur dire, ben voilà, on prend 5 minutes, notez sur un papier toutes les idées qui vous viennent, qu'est-ce qu'on a vu ensemble, et tu vois, faire des mini récaps et comment vous allez l'appliquer demain dans votre quotidien. Voilà ce que je les invite à faire très concrètement.
Quitter la posture de consommateur et devenir acteur, ben c'est un beau message. Un grand merci pour toutes ces infos, tous ces tips, tous ces tuyaux. Merci Sébastien, c'était hyper enthousiasmant.
Merci, merci Rémi.
Et je vais essayer de retenir tout ce qu'on s'est dit. Je vais me le réécouter plein de fois, je vais me raconter des belles histoires autour.
Mais oui, et ce que j'ai pas dit, tiens, je peux le glisser maintenant. On a une association des sports de mémoire en France, hein, qui s'appelle AS, mémoire.fr. Donc, s'il y en a qui se sentent l'âme d'un compétiteur, d'un athlète, vous pouvez nous rejoindre, un site, et on s'entraîne régulièrement entre nous en ligne avec une belle communauté.
Une idée reçue, c'est qu'il faut être jeune pour avoir une bonne mémoire.
Non, il y a des gens qui ont beaucoup. Là, j'ai un ami qui a 70 et qui fait de la compétition. Il n'y a pas d'âge.
Merveilleux.
Il faut être jeune dans sa tête.
Mémoire, terre d'accueil. À bientôt, Sébastien. Salut.
Merci.